Bonsoir Philippe, merci d'avoir accepté cette invitation, ça nous fait très très plaisir de commencer ce cycle avec toi. En regardant rapidement un petit peu ton CV que tu nous as communiqué, je vois que tu as eu un parcours un petit peu atypique, enfin en tout cas moi je le juge atypique, mais c'est peut-être très très logique dans la progression. Donc je vois que tu as une maîtrise en linguistique que tu as obtenue en 1985, hein, c'est ça ?
Même un DEA.
Un DEA, alors c'est un DEA en linguistique. Donc après tu as obtenu à nouveau un DEA, un DEA en informatique en 86, un autre DEA en 1987, non, la liste n'est pas si longue que ça, mais elle est quand même impressionnante, en mathématiques et donc informatique, et au final un doctorat obtenu en 1990 en mathématiques et informatique. Et ton dernier diplôme, c'est ton habilitation à diriger les recherches. Que tu as obtenu en 1999. Donc tu es actuellement directeur de recherche au CNRS, dans le laboratoire Parole et Langage. Tu as été également directeur de l'ILCB de 2016 à 2020, c'est ça, jusqu'à 2020. Et donc la question c'est, donc on va dire, je ne sais pas, des premières amours déjà pour la linguistique. C'était dans quel contexte? Comment est-ce que tu t'es orienté vers la linguistique? Est-ce que c'était vraiment un intérêt fort pour toi déjà à l'époque?
Le langage, l'étude du langage, oui, bien sûr, c'était un intérêt. Je travaillais à l'époque, j'avais repris mes études et je tâtonnais un peu. C'est un parcours un peu atypique et donc effectivement, c'était une rencontre. La première rencontre, c'est le premier nom, puisque c'est ce que tu m'avais demandé aussi de citer. C'est le grand professeur qu'on avait à Aix, qui s'appelait Claire Blanche-Mavéniste. Qui était quelqu'un d'absolument remarquable pour dans la conscience des données, de l'étude des données, de la précision d'une approche qui était qu'on n'appelait pas encore les corpus, la linguistique de corpus, mais qui était exactement celle-ci. Donc c'était ma première rencontre, et la linguistique est venue, et le plaisir, le désir et la passion d'étudier le langage, la fonction langage est venue de là. Et on travaillait à l'époque sur des données qui étaient des données naturelles. On faisait des enregistrements, on traitait ces données-là. Et ça, c'était le premier truc. Et très rapidement, ma passion après, qui était aussi un peu personnelle pour l'informatique, est apparue très convergente, très cohérente avec cette idée de travailler sur des données. Mmh. Et là, c'est quand j'ai entrepris de reprendre un autre cursus à la suite de mes études de mon DEA de linguistique, ça a été l'informatique. Et donc, je suis allé à Lumini pour accumuler ces... On avait cette chance-là à l'époque, hein, de pouvoir passer... On avait des passerelles qui étaient beaucoup plus faciles finalement qu'aujourd'hui, et des gens plus ouverts peut-être, en tout cas plus ouverts à ces parcours un peu atypiques. Et là, la seconde rencontre, le second nom, c'est Alain Kolmerauer, qui était un grand professeur, un des pionniers de l'intelligence artificielle, qui avait créé un langage qui a fait école dans la programmation logique, et qui avait organisé aussi ce langage-là. Le prologue, il faut savoir aussi que cette naissance-là de tout un courant de l'IA, de l'intelligence artificielle, s'est appuyée sur la programmation logique, qui elle-même est venue des propres recherches de Kolmerauer sur le langage. Et c'est cette cohérence que j'ai trouvée et que je continue de chercher tout au long de mes recherches entre linguistique et informatique, et c'est pas utiliser l'outil informatique pour traiter des données linguistiques, mais c'est vraiment faire la même chose. Kolmerauer montrait que on pouvait démontrer un théorème, c'était exactement la même chose que prouver la grammaticalité d'un énoncé. Et toutes ces recherches sont parties de là, et ça m'a toujours passionné. Donc ça, c'est la seconde étape, le second nom sur mon parcours. Après, j'ai d'autres noms, bien sûr.
Et donc,
il y a juste un truc, oui. Je voulais préciser un truc qui est passionnant pour nous à l'ILCB, la programmation logique. Au cœur de la programmation logique, on trouve cette notion d'unification. Mm-hmm. Et cette unification qu'on retrouve dans des modèles, qu'on trouve en neurolinguistique, par exemple avec Peter Agort, avec Memory Unification and Controls, tout son modèle, l'unification est au cœur de ça. Et ça me, et c'est vraiment le même sens.
Ça te parle.
Ah oui, ça parle complètement, oui. Mm-hmm.
Et donc l'informatique, non pas comme un simple outil, mais également comme finalement un moyen de comprendre la manière dont le langage est traité chez l'humain, éventuellement en faisant un certain nombre de prédictions. Comment tu vois un petit peu cette interaction justement entre l'informatique et, par exemple, l'étude du langage chez l'humain ?
Chaque fois qu'il faut, il faut aussi se souvenir du fait que l'informatique, l'intelligence artificielle en particulier, a eu une évolution qui était extrêmement proche de celle de la linguistique. Les travaux de Chomsky, au départ, ont été fondamentaux en informatique théorique. La théorie des langages s'appuie complètement sur ces travaux-là. Et réciproquement, comme je l'ai signalé avec Colmer Auer, c'était cette idée qu'on faisait de la logique et qu'on pouvait faire ça. Il y a une seconde notion qui a été déterminante dans les apports de ces courants-là, c'était la notion de contrainte. Et ça, c'est vraiment fondamental dans ce que je fais. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. C'est l'idée que... on peut représenter les informations sous une forme, on appelle ça en informatique, les approches déclaratives. C'est quelque chose qui est un peu tombé en désuétude, mais c'est décrire un problème, c'est le résoudre. Et on peut le faire avec la logique, mais on peut le faire aussi avec beaucoup d'autres outils, et les contraintes en sont un. Et ça, c'est, donc pour répondre à la question, c'est une façon à la fois de représenter la connaissance linguistique, mais également de la traiter. La programmation par contrainte, ça c'était aussi un des grands apports de Colmer Auer, ça nous a permis, mon travail moi à l'époque a consisté dans les années 90 à essayer de réunir un peu ces approches-là, la programmation par contrainte avec la représentation des théories basées sur les contraintes en linguistique. Il y a eu plein de théories, qui est tout un grand courant dans les fins des années 80, qui s'appellent toujours d'ailleurs les théories basées sur les contraintes. Et donc on voit bien là encore ce rapport-là.
Et donc,
citer un second nom.
Non, mais juste, tu as travaillé directement avec Colmer Auer.
Oui, fait mes études avec lui. D'accord.
C'était quand tu étais en thèse, quand tu étais en master.
Oui, alors en DEA, le DEA, c'était le responsable de tout ça. Et en thèse, ma thèse, je l'ai faite avec un directeur à l'Université de Montréal. Mais je l'ai faite ici, à Marseille. Donc en collaboration, j'ai alterné entre l'université de Montréal et Marseille. Et voilà, et donc c'était l'idée justement d'introduire les contraintes dans ma thèse, d'introduire les contraintes et la programmation par contrainte pour représenter l'information linguistique dans une théorie qui venait tout juste d'arriver, et on aura l'occasion d'en parler dans les modèles, qui était créée par Ivan Sack, qui est un grand professeur à Stanford, qui était un grand professeur à Stanford. J'ai réalisé avec effroi que les quatre noms que j'ai cités, sont malheureusement tous des collègues décédés.
Ah oui.
Mais c'est, voilà, les années passent. Ivan Sack avait créé cette théorie-là qui commençait à bousculer le mainstream, qui était les grammaires génératives, qui est le courant général.
Ça, justement, on va y revenir parce que ça va être un des
points principaux. C'était une rencontre absolument merveilleuse.
D'accord. Et c'est donc avec lui que tu as travaillé à Montréal ?
Non, ça c'était Jean-Yves Morin, un autre. Sack, je l'ai rencontré au milieu des années 90. Et on a organisé des conférences, enfin bon, c'était un grand nom du domaine. Et puis, régulièrement, on a travaillé ensemble, on a collaboré, mais sur ces questions-là, quand même.
D'accord.
Et puis après, cette notion de contrainte, ce que j'ai fait, on pourra aussi en reparler, c'est la pousser jusqu'au bout. Et là, c'est un quatrième ou cinquième don, je ne sais plus. Gabriel Bess, qui est quelqu'un de peu connu, qui était un professeur argentin qui avait fui l'Argentine sous Pinochet pour toutes sortes de raisons, et qui s'était installé en France. Il était à Clermont, et c'était un linguiste merveilleux, lumineux, et là on a longtemps travaillé ensemble sur l'élaboration d'un nouveau cas théorique, d'un nouveau modèle théorique totalement basé sur les contraintes et rejetant totalement tout reliquat de l'approche générative.